Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le Yorzian Tech News, la revue mensuelle de l'actualité du mois qui vient de se passer. Pour rappel, c'est enregistré en direct sur Twitch, en direct sur YouTube, et j'enregistre ça pour que je puisse vous diffuser ça au format podcast sur vos applications de podcast préférées. Si vous écoutez ça en podcast, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit nombre d'étoiles pour que le podcast soit un peu plus visible. Alors ce soir, on va parler de différents sujets. Le premier sujet que je vais aborder, comme chaque fois que je parle de l'actualité, ça va concerner le noyau Linux. Alors le noyau Linux, il y a un mois, on était arrivé à la RC1 du noyau Linux version 7, la 7RC1, qui donc marquait la fin de la fenêtre de merge. J'ai expliqué le mois dernier ce que c'était, la fin de la fenêtre de merge, donc les fusions des propositions avant la 7, et donc là, à partir du moment où la fenêtre de merge a été fermée, à partir du moment où la 7.0, le kernel 7.0 RC1 a été publié, fin du mois de février, début mars, il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées dedans, c'est juste de l'intégration de ce qui a été mis, de ce qui a été prévu d'être mis dans le 7.0. Donc il y a quand même un peu de boulot à faire, il y a des améliorations à faire dedans, voilà, on en est ici, pendant tout le mois d'avril, une évolution qui est passée de la RC1 à la RC2, de la RC2 à la RC3 à la RC6. Il y a beaucoup de code dedans qui a changé, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, et quand je vois ça, je me dis, super, il va y avoir plein de nouveautés à regarder. Bon, de ce côté-là, c'est un peu frustrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On va dire que ce noyau 7.0, le côté massif des changements qui sont dedans, c'est surtout des correctifs de bugs, des améliorations, des stabilisations, du refactoring, c'est-à-dire plusieurs choses qui sont à plusieurs endroits, on les remet à un seul, on va le généraliser. Il y a notamment eu dans la RC4, au milieu du mois, beaucoup de changements dans la partie réseau, mais beaucoup de changements qui correspondaient à des tout petits patchs répartis sur toute la partie réseau. Et au final, il n'y a pas vraiment une fonctionnalité qu'on peut mettre en avant devant. Donc c'est pas très visible pour les utilisateurs. Ça va être un noyau qui va contenir beaucoup d'informations, beaucoup de choses pour les développeurs, pour mieux faire fonctionner le noyau à l'avenir, pour mieux le documenter, etc. Donc c'est un travail de fond qui est là, mais on peut quand même remarquer quelques évolutions, notamment quelques améliorations qu'on peut noter, même si c'est pas énorme. On peut noter sur le système de fichiers EXT4, donc sur la gestion des fichiers, on peut noter du boulot sur le EXT4 et sur la couche sonore. Pas mal de correctifs. C'est pas du tout ça que je voulais faire. Pas mal de correctifs sur ces deux éléments-là. Je vous mets les liens, évidemment, dans les conversations pour tout ce qui va concerner le live, et pour ceux qui sont en podcast, je mettrai ça dans les notes de l'émission. Je vais quand même vérifier que ça arrive bien sur le Discord, parce que pour information, les liens qui sont donnés pendant le live sont sauvegardés sur le Discord, de toute façon que ce soit pratique à retrouver plus tard. Donc c'est bien le cas, ça fonctionne, super. Donc voilà, c'est la RC6, une release RC5, RC4, RC3, etc. Des releases sans vraiment feature qu'on peut vraiment mettre en avant. Normalement, la RC7, c'est souvent la dernière. 6 ou 7, c'est souvent la dernière. A priori, prévu pour ce week-end. Si le rythme se cale sur la même chose que d'habitude. Ce qui nous permettrait de voir apparaître une version finale mi-avril. Alors il y a Sir Boncloud qui nous dit il y a eu des correctifs de sécurité importants aussi. Ah oui, il y a eu plein de choses importantes en fait, mais il n'y a pas de feature, il n'y a pas de fonctionnalité remarquable à mettre en avant. C'est un petit peu ça le truc. Mais effectivement, comme le dit Sir Boncloud, il y a par exemple un correctif pour la série de vulnérabilités Crack Armor. Sir Boncloud a bossé dessus. Bravo, je mets ton petit message en avant. Hop, si j'arrive à retrouver le truc. Voilà. Donc oui, il y a plein de correctifs. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas un nouveau support qui arrive vraiment flagrant. Il n'y a pas un truc énorme qu'on enlève. Voilà, c'est un noyau qui évolue et qui est assez intermédiaire, on va dire. Le 6-19 avait eu quand même pas mal d'évolution. Donc voilà, le 7 devrait sortir d'ici quelques semaines. La RC7 devrait sortir a priori ce week-end. Si ça se trouve, elle est sortie entre le moment où j'ai rédigé ça puis le moment, et puis maintenant. Si vous voulez aller voir sur kernel.org. A priori, ça sera peut-être plutôt samedi ou dimanche. Mais voilà, on est vraiment dans l'évolution générale du noyau Linux. Donc, tout se passe bien. Beaucoup de changements. Justement, Linus Torvalds disait « Je suis épaté par la quantité de changements qu'il y a dedans. » Voilà. Mais donc, pas grand-chose à dire de plus dessus. On reviendra dessus, je pense, le mois prochain en revenant sur la suite. Par contre, il y a eu un truc qui est rigolo. Je vais le mettre, je vous mets le lien sur les chats et dans les notes de la discussion. Il y a eu une mise à jour d'un autre noyau, d'un noyau qui est en support sur le long terme, d'un noyau LTS. Les noyaux LTS, c'est pas Linus Torvalds qui s'en charge, hein. C'est un de ses collaborateurs qui s'appelle Grégoire Hartmann. Et typiquement, la 6.12.79 est sortie assez rapidement et ne contient qu'un seul commit, qu'une seule opération, qui est un revert, un commit, l'annulation d'un commit qui avait eu lieu sur la 6.12.78. Alors, je l'ai mis en nom parce que c'est rigolo, ça arrive de temps en temps. Ça arrive pas très 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 souvent, mais ça arrive de temps en temps. Et ce à quoi ça correspond, c'est que dans le noyau 6.12.78, donc qui est un noyau avec le support sur le long terme, donc pendant plusieurs années, il va être supporté et maintenu par l'équipe de développement du noyau. Et dedans, il s'avère qu'il y a eu des évolutions qui ont amené un bug sur une plateforme particulière, qui est la plateforme LongArch, que je connais pas plus que ça, si je dis pas de bêtises, ça doit être LongArch, ça doit être du RISC-V, je suis pas totalement sûr de moi là-dessus. Et le changement qu'il y avait dedans faisait que on ne pouvait plus compiler de nouveaux noyaux sur le LongArch. Alors, on va dire, hein, ceux qui passent de la 6.12.78 à la 6.12.79, pour ça, il n'y aurait pas grand monde quand même, parce que je ne sais pas parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont une plateforme LongArch en question. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde de ce côté-là. Donc c'est vraiment une mise à jour, un correctif pour un bug en particulier. Donc c'est assez rigolo, voilà, c'est assez rigolo qu'il y ait une nouvelle version du noyau qui sorte pour un truc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est critique pour cette plateforme-là, puisqu'on ne pouvait juste plus recompiler le noyau. Ce qui est un petit peu embêtant, parce que ça veut dire que les améliorations, les correctifs qui étaient dans la 78 ne sont pas applicables, n'étaient pas applicables sur LongArch. Donc maintenant avec la 79, cette fois ils vont être applicables, ils vont pouvoir avoir un noyau à jour. Donc voilà, c'est relativement rare, mais c'est assez... C'est assez rigolo, voilà, je voulais le dire. Donc pas énormément de nouvelles du côté du noyau, hein. Des fois je vous parle des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux supports, etc. Là, il n'y a pas eu tant que ça. Par contre, il y a quand même des petites choses qui sont intéressantes. Je viens de penser que j'ai préparé un truc que j'ai pas mis. Voilà. Il y a quand même quelques petites choses qui sont intéressantes au niveau du noyau Linux. C'est un projet qui est un projet de Google que j'ai trouvé intéressant. Alors il s'avère que c'est avec de l'IA, mais franchement, le fait que ce soit avec de l'IA, c'est pas le point le plus intéressant, c'est pas le point le plus critique. C'est le projet Sachiko. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le projet Sachiko. Le projet Sachiko, c'est un projet qui a comme objectif de surveiller les patchs qui sont publiés sur la liste de développement du noyau Linux, sur la LKML, la Linux Kernel Mailing List. Et d'analyser le patch pour pouvoir trouver des problèmes potentiels dedans, pour pouvoir visualiser des problèmes potentiels dedans, ou plutôt quand un contributeur envoie un message sur la LKML. Alors on va rappeler en un instant comment ça fonctionne. C'est quand un développeur veut envoyer une contribution pour le noyau Linux, il va écrire un patch. Alors un patch, hein, c'est un fichier texte, hein, qui va décrire les changements à réaliser. Alors c'est un fichier texte qui est exploitable, manipulable par une machine qui va être capable de lire les changements et de les appliquer sur un code source. Et c'est très lisible. Quand on a l'habitude de lire du code, c'est très lisible, sauf s'ils sont kilométriques. Mais normalement, ils sont relativement petits, tout du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. Et l'idée, c'est que le développeur, il envoie ça donc sur la Linux Kernel Mailing List, Et sur la Linux Kernel Mailing List, il y a d'autres personnes qui vont être capables de lire son patch, de le tester, de faire des retours dessus. En général, il y a 2-3 allers-retours pour stabiliser le truc, pour peaufiner la modification, l'amélioration. Et une fois que ça s'est fait, le mainteneur va accepter la modification dans sa branche. Une fois qu'il va être accepté dans sa branche, il va basculer au bout d'un certain temps, dans une partie du Linux qui est Linux-Next. Vraiment la prochaine version, celle qui sera intégrée lors de la prochaine fenêtre de merge, entre deux versions, donc pendant les 2 semaines qu'il y a entre deux versions. Et une fois qu'elle est dans Next, donc elle est là avec plein d'autres modifications, toutes les modifications qui ont été ajoutées, et toutes les nuits, il y a un certain nombre de tests qui ont lieu dessus, des tests pour voir si ça casse pas quelque chose d'existant, pour voir s'il n'y a pas des erreurs à côté desquelles on aurait pu passer, etc. L'idée qu'il y a au niveau de ce projet Sachiko, c'est de pouvoir faire un premier retour au plus tôt avant que ça arrive dans Next. Parce qu'en fait, quand ça arrive dans Next et puis qu'on voit qu'il y a un truc à changer, ça peut nécessiter pas mal de changements parce qu'il peut y avoir des conséquences derrière les changements qui ont été réalisés, par exemple. Donc l'idée, c'est le développeur va envoyer son patch sur la Linux kernel mailing list, les contributeurs font des retours et idéalement, ça serait ici que Sachiko, l'outil qui a été développé, puisse faire un retour. Alors, aujourd'hui, le fonctionnement de Sachiko fait que ça ne poste pas sur la Linux kernel mailing list. Hein, je ne pense pas que ce soit prévu que ça poste directement. Mais l'idée, c'est d'avoir une aide de retour au patch pour chacun des contributeurs pour éviter, justement, de passer à côté de quelque chose. C'est une aide, c'est un assistant. Ça ne remplace pas les reviews de la part des utilisateurs, clairement pas. Et ça a comme objectif d'essayer de détecter des erreurs classiques et des problèmes classiques, puisque c'est basé sur des anciennes failles qu'on a pu rencontrer. Et aujourd'hui, par rapport à d'anciens patchs qui ont été postés, Sachiko arrive à détecter un peu plus de la moitié des bugs qui avaient été détectés par des humains. Donc l'objectif, c'est pas du tout de remplacer, l'objectif, c'est pas de changer du code, l'objectif, c'est de décharger une partie des reviews de la part des autres lecteurs pour se concentrer sur des problématiques potentiellement un petit peu plus compliquées. Le site web, il y a un site web, hein, sachiko.dev, je l'ai pas mis là comme un idiot, je vais vous le sortir, je vais vous le montrer. Hein. Sachiko.dev. Ok, alors je ne vous montrerai pas Sachiko.dev. La raison, elle est tout à fait simple et pragmatique. Voilà pourquoi. Voilà. Il est en erreur 502. Donc je ne vous le montrerai pas, mais en gros, comment c'était, parce que je trouvais que c'était rigolo, c'était intéressant de le montrer. En gros, ce qui se passait, c'est qu'on a un mail. À côté du mail, dans l'entête du mail, donc on a un mail avec un patch, l'intitulé du patch, et à côté, alors de mémoire, il y a 4 petits voyants qui sont là, avec un nombre de recommandations, pour les erreurs critiques, pour les erreurs, pour les warnings et pour les remarques, on va dire, de mémoire, c'est un truc comme ça, voilà, donc il y en a 4 de gravité différente, et après, il passe en revue le patch, et il met des commentaires au niveau de chaque élément qui potentiellement peut poser souci. Donc, intéressant comme élément. Je me dis c'est une approche qui est intéressante parce que le temps qui est libéré pour certains, pour détecter des erreurs classiques, il peut être passé pour se concentrer sur des architectures, sur des erreurs plus problématiques. Voilà. Donc ce projet-là, voilà, un projet que j'ai vu passer, j'ai trouvé ça intéressant. Et comme le dit effectivement Sir Bong Cloud, ça ne remplace pas les insultes de la part de Linus Torvalds. Hein. C'est complémentaire, évidemment. Donc j'ai découvert ça sur Foronix. Alors c'est pas ouvrir le lien que je voulais faire, c'était le copier l'adresse du lien pour vous le mettre dans le chat. Il y a 2 liens qui sont intéressants et je vous les mets tous les 2. Les liens, hop et hop. On va voir si le bot arrive à s'en sortir avec les 2 liens. Je ne suis pas convaincu, mais on verra. Et bonjour Virgile. Donc voilà un petit peu le projet Sachiko. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissaient. Mais ça m'a l'air d'être assez intéressant. Franchement, qu'il soit fait par IA ou pas fait par IA, pour moi, c'est pas là en l'occurrence par rapport à l'intérêt que ça peut avoir. C'est pas un critère. C'est juste que ça permet de gagner du temps quand on, pour les développeurs. Donc ça, pour moi, c'est un bon truc, c'est un bon plan, c'est une bonne approche, une approche intéressante. Attendez, je vais aller voir s'il m'a bien posté les deux liens. Il m'a bien posté les deux liens. Je vous laisserai aller voir les articles si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire sur le noyau Linux. Pas très très riche, le noyau Linux, ma partie de noyau Linux ce soir. Bon, quelques petites infos intéressantes, voilà, sans plus. Par contre, on va passer plus de temps sur la partie suivante. La partie suivante, ok, donc mon bouton là ne fonctionne pas, on va y aller à la main. La partie suivante, on va parler des BSD. Et le premier sujet qu'on va aborder, c'est OpenBSD. Alors c'est pareil, hein, c'est des actualités, j'ai voulu faire une sélection d'actualités un petit peu différente de ce qu'on rencontre ailleurs, et notamment il y a un bug assez rigolo, assez intéressant qui a été détecté dans OpenBSD, un bug qui a été détecté dans une partie du système qui s'appelle PacketFilter. Alors s'il y en a qui connaissent PacketFilter, c'est l'élément dans OpenBSD qui va faire essentiellement deux opérations, qui va faire du filtrage réseau, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire le côté firewalling, et c'est lui également qui va faire le... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? La limite en termes de débit. On va pouvoir mettre, on va mettre une limite à 300 mégabits pour lui, 500 pour lui, etc. Par flux réseau. Donc, on peut configurer ça, mettre des limites de bande passante à l'aide de ce qu'on appelle les files d'attente de packet filter. Il y a un ordonnanceur qui s'appelle HFSC qui est là. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce bon vieux packet filter ? Eh bien, ce bon vieux packet filter, comme tu le dis, Mipsou, c'est un bon vieux packet filter. Et typiquement, la mesure de la bande passante d'un processus, d'un élément sur le qu'on veut mesurer et qu'on veut limiter, est stocké dans une variable en 32 bits. La conséquence, c'est quoi, que ce soit limité à 32 bits ? C'est qu'on compte ça en bits par seconde, et ce qui fait que si on a un débit supérieur à, et évidemment que j'ai mis note ici pour vous le dire, si on a un débit supérieur à 4 294 967 296 bits par seconde, et ben ça repart à zéro. Et le problème, il est que, contrairement à ce que j'avais compris au début, quand j'ai d'abord lu la news, j'ai rédigé, je me suis rendu compte de mon erreur, je me suis fait relire, ça veut donc dire que si jamais vous envoyez un trafic à... Vous mettez une limite à, par exemple, 5 gigabits. Voilà. Vous mettez une limite à 5 gigabits. Si jamais il y a 4 milliards, si jamais il y a 4,3 gigabits qui arrivent, en fait le problème c'est que la limite, elle sera pas à 4 gigas, elle sera pas à 5 gigas, elle sera à 300 mégas. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est quand on va dépasser ces 4 milliards de bits par seconde, ces 4 gigabits par seconde, on revient à zéro. Donc si je fais 5 gigabits par seconde, 4 on arrive à 0, on continue à mesurer, hop, on arrive à 1. Et la limite sera à 1 gigabit par seconde. Ce genre de bug, s'il y en a qui font du dev, ce genre de bug, c'est l'enfer à trouver. Parce qu'évidemment, où je parle de 4 gigas, 5 gigas, etc., c'est jamais des valeurs entières. Hein. C'est que d'un seul coup, le trafic, il monte, puis d'un seul coup, pouf, il est limité très bas, puis pof, après il remonte. Quel est le F, quoi ? Quel est le F. Donc voilà, l'idée, le problème, il était là. Le problème, c'est que si on tentait de configurer une limite supérieure à 2 puissance 32 bits, la valeur repartait à 0, ça faisait un integer overflow, et ça provoquait des limitations de débit erronées et même imprévisibles. Ça aurait été plus simple que ça soit bloqué à 4 gigas, mais là, c'était pas le cas. Si on était juste au-dessus des 4 gigas, et puis qu'on avait mis une limite bien au-delà, et ben notre limite était de la différence entre 4 gigas et de ce qu'on avait. Ce qui fait que ça pouvait être un petit peu problématique. Alors, c'est le bug de 2038, c'est le bug de l'an 2000, c'est ça, vraiment un overflow. On va dire que c'est plus le bug de 2038 que de l'an 2000. Mais voilà, c'était un grand, un gros problème. Alors, beaucoup de monde utilise des machines avec 1 gigabit, avec 2.5 gigabits, ça passait. 5 gigabits, déjà on a un petit peu limite, mais aujourd'hui, des cartes 10 gigabits, 25 gigabits ou 100 gigabits, ben, ça existe. Ce qui fait que le taureau a été pris par les cornes et ça a été corrigé. Ça a été corrigé et les changements qui ont eu lieu, déjà, la variable qui va stocker la valeur de bits par seconde qui passe dans cette file d'attente, elle était passée en 64 bits. Alors, elle n'a pas été exploitée à 64 bits puisqu'on l'a plafonnée. Elle a été plafonnée à 999 gigabits par seconde pour le moment. En se disant, on a du temps, le temps de voir venir. Hein. C'est pas la semaine prochaine que va sortir une carte limitée à 1 terabit par seconde, à plus de 1 terabit par seconde dans ma machine. Donc si jamais il faudra lever cette limite-là, vu que c'est en 64 bits, on pourra la lever, mais pour le moment, c'est limité à 999 gigabits par seconde. Voilà, j'ai trouvé l'histoire un petit peu rigolote, et je trouve que c'est une histoire qui montre bien la variété des problèmes qu'on peut rencontrer dans un gros programme, et là en l'occurrence dans un système d'exploitation, et ça peut avoir des impacts assez importants. Il faudrait augmenter le débit en crescendo pour se rendre compte de la limite. Ben avant, quand tu avais le problème, oui, c'est ça, tu trouves la limite, tu aurais pu la trouver en disant, voilà, je monte de mégabit en mégabit, puis à un moment donné, pof, je me retrouve limité très bas, et peut-être que je vais tilter en voyant que c'est quand je franchis les 4 gigas, parce que, on va dire, c'est quand même des nombres qui sont très connus chez les informaticiens, hein, depuis 132, 4 gigas, c'est des grands classiques, souvenez-vous, quand on était avec les ordinateurs sous 32 bits, ben on était limité à 4 gigaoctets de RAM, de mémoire. Alors s'il y en a qui me disent non, moi j'avais 16 gigas, oui, il y avait un truc qui s'appelait le PAE qui permettait d'avoir plusieurs blocs de plusieurs, excusez-moi. Il y avait un mécanisme qui s'appelait le Physical Address Expansion sur Intel qui permettait d'avoir plusieurs morceaux de 4 gigas, mais c'était toujours par un morceau de 4 gigas quoi. 2 puissance 32 c'était 4 gigas, voilà. Donc là genre d'erreur classique intéressante à découvrir. Donc voilà, petit bug sur packet filter. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de petites erreurs de packet filter. Event Vibe qui dit hello, Yorzian, limité à 999 gigabits par seconde, ça risque tout de même d'être atteint par certains chercheurs qui font de la recherche dans les télécoms et font régulièrement des tests, voire des records de débit, non? Alors, oui, mais non, parce que là, ça va être quand tu as une interface réseau avec du débit dessus et que tu vas souhaiter mettre des limites sur certains flux réseau. C'est-à-dire que tu vas dire, j'en sais rien parce que je connais pas suffisamment packet filter pour ça, parce que je l'ai quasiment jamais pratiqué. Je l'ai pratiqué deux fois il y a 20 ans. Donc vraiment, on va dire que je suis pas du tout expert là-dedans. Mais par exemple, tu peux dire, ben voilà, sur cette connexion TCP, sur le port 80, voilà, ok, tu mets une limite de temps. Et c'est quand tu mets ces limites-là que ce processus-là, que ce problème potentiel apparaît. Donc là, ça voudrait dire que tu mets une limite supérieure pour un flux de données à 999 gigabits par seconde. Et quand on atteint la limite, eh ben, la limite, elle est plafonnée pour l'instant à 999 gigabits par seconde. Pour le moment, elle est plafonnée. On n'est pas dans la même situation qu'avant où quand on la dépassait, on revenait à zéro, et en fait, on arrivait, hop, on revenait à zéro et on continuait. Et donc, la limite se trouvait beaucoup plus basse que ce qu'on avait initialement prévu. Donc, non, ça sera pas un gros problème pour les chercheurs. Les chercheurs, là, quand ils travaillent sur ces trucs-là, ils n'en sont pas encore à mettre des limites par flux réseau, etc. Et là, c'est par, pour une machine. Donc, voilà. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de chercheurs qui bossent avec OpenBSD là-dessus. Donc, comme le dit Deténéo 12, hein, faut cesser un peu de taf dans le futur, on ne sait jamais. En fait, c'est toujours un compromis qu'il faut trouver entre l'occupation de la mémoire, est-ce que c'est nécessaire de mettre des variables qui sont capables d'aller bien au-delà des 4 milliards, bien au-delà, et qu'on n'atteindra jamais ces limites-là, parce que ça prend la place en mémoire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Donc, limite, on se dit, voilà, 999, c'est le plafond pour le moment, et puis c'est bon. Donc c'est rigolo, voilà, rigolo. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça comme assez rigolo comme petit problème. J'ai une autre petite histoire à raconter. sur autour d'OpenBSD. Enfin, c'est pas vraiment OpenBSD, mais pas que. Et ça, c'est une petite histoire qui va être à destination des gens qui aiment bien les vieilles machines. Alors, j'ai l'impression que je crois que Ben n'est pas là ce soir. Ben, mémoire morte, je pense qu'il est, il est pas là ce soir. Non, je pense que je l'aurais vu. Sauf s'il fait signe dans le live. Ça peut intéresser également PDP Maker. Ça peut intéresser tous ceux qui aiment bien les vieilles machines. Mais il y a l'ami Mjodvala. Alors, je le connais pas personnellement. Je connais du monde qui le connaissent personnellement, mais je ne le connais pas personnellement. Mjodvala. Il y en a parmi vous qui connaissent Mjodvala? On en a parlé, avec, avec Emile pendant le FOSDEM. Mjod a ajouté, a écrit une petite histoire sur OpenBSD, sur la plateforme 88000, Motorola 88000. Motorola 88000, c'est pas une faute de frappe. Le Motorola 88000, c'est un processeur qui existait entre le 68000 et le PowerPC. Un processeur qui est vécu entre les deux. Et il y a eu un portage d'OpenBSD sur ces machines-là, sur cette architecture-là. Et bah, il raconte l'histoire, il revient sur cette histoire-là, etc. Donc ça a l'air d'être assez intéressant. J'ai regardé en diagonale, mais je pense que je vais aller y jeter un petit coup d'œil. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, je mets l'URL évidemment dans la discussion, dans le chat pour les gens qui sont là, et dans les notes de l'émission, parce que bah, petit peu de culture en général comme ça, c'est toujours intéressant et c'est toujours rigolo de découvrir des machines dont on n'a jamais entendu parler. Je dois avouer que le 88000, c'est pas un truc que je connaissais beaucoup. Et sur, en plus, avec OpenBSD, qui est pas un OS qui est quand même hyper, hyper répandu. Merci beaucoup, Liberté, d'être passé. Repose-toi bien, profite bien de ton week-end. Donc voilà pour OpenBSD. On va bientôt arriver au dossier. Parce que là, je vais vous parler de FreeBSD. Et derrière FreeBSD, on a notre gros dossier. Alors, le 10 mars dernier, FreeBSD 14.4 release est sorti. Alors, la numérotation des BSD, des FreeBSD, des fois un petit peu troublante, puisque ce qu'on va avoir, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, et s'il y a des spécialistes qui peuvent me corriger, n'hésitez pas, on va avoir la version de développement qui est la -current. Sur la -current, on va stabiliser un certain nombre de choses, ce qui va nous donner la -stable. Et la version de production est basée sur, donc, du coup, une ancienne stable, qui est la release. Donc là, on a FreeBSD 14.4 release, donc qui est la version qu'on utilise en production sur les serveurs, qui est sortie le 10 mars dernier. Donc c'est une branche stable. Dans les gens qui utilisent FreeBSD, a priori, vous êtes au moins avec celle-là. Ou alors avec stable, ou alors avec current. Mais la dernière version normalement à mettre en prod, c'est la 14.4. Alors il y a plein de choses intéressantes qui sont dedans. Et notamment, il y a eu la mise à jour d'OpenSSH dans FreeBSD 14.4 avec la 10.0p2 et la 10.0p2 de FreeBSD 14.4 release prend en compte les algorithmes de chiffrement post-quantique. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant qu'on revienne un petit peu, enfin qu'on revienne, qu'on s'intéresse justement à pourquoi est-ce qu'on parle du post-quantique. Et donc j'ai commencé à faire des petites recherches dessus. Et ce matin, quand je me suis levé, alors le matin quand je me lève et que je suis pas, je donne pas une formation, j'ai pas une réunion, un truc comme ça, je prends mon petit déjeuner devant YouTube puis je regarde des vidéos YouTube. Une ou deux vidéos en général avant d'arriver au studio. Et sur quelle vidéo je tombe une vidéo de Computerophile, qui est une chaîne anglaise sur YouTube, qui parle des algorithmes post-quantiques. Et je dis, ben ça tombe bien, j'étais en train de faire des recherches là-dessus. Super intéressante hein, la vidéo. Évidemment, si vous parlez l'anglais, alors moi elle est un peu plus bas dans mes notes, donc, mais je vais vous mettre tout de suite le lien dessus. La vidéo est absolument géniale. Et justement, Hardware Address nous dit, c'est un truc qui m'échappe complètement. Et ben justement, on va pouvoir se poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça fait allusion? Pourquoi faut s'y intéresser? Pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse maintenant? Donc voilà, regardons un petit peu tout ça, parlons un petit peu d'ordinateur quantique et parlons un petit peu donc du post-quantique. Qu'est-ce que ça veut dire le post-quantique? Voilà, pourquoi est-ce qu'on parle de après-quantique? Alors pour comprendre ça, pour revenir là-dessus, on va s'intéresser à ce que c'est qu'un ordinateur quantique. Et la première chose à dire pour s'intéresser à ce que c'est qu'un ordinateur quantique, c'est qu'un ordinateur quantique, ça n'est pas l'évolution d'un ordinateur qu'on a aujourd'hui. C'est une autre manière de faire des calculs sur une machine, sur un automate. Mais on n'a pas aujourd'hui des ordinateurs qui vont devenir des ordinateurs quantiques plus tard. C'est vraiment pas la direction que ça prend, c'est vraiment pas l'idée. C'est juste une problématique de calcul qui est exploitée différemment. Et pour ça, comme le nom l'indique, ça utilise des propriétés quantiques de la matière pour être capable de faire certains calculs d'une manière différente, puisque les ordinateurs, les puces, les processeurs, entre guillemets, n'ont pas du tout les mêmes propriétés que les processeurs qu'on a aujourd'hui. Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment être conscient que aujourd'hui, dans le monde académique, dans le grand public, dans le monde industriel, on en est au stade de recherche. La puissance des ordinateurs quantiques qu'on a aujourd'hui, qui sont des ordinateurs expérimentaux, qui coûtent extrêmement cher à fabriquer, à maintenir, à exploiter, c'est des ordinateurs qui sont très peu puissants. On regarde, on explore ce qu'on peut faire avec. Alors peut-être qu'il y a des militaires, des États qui en ont et qui sont secrets, mais c'est pas connu. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques sont des petites machines en termes de puissance de calcul, de recherche. Et je précise bien en termes de puissance de calcul parce que il y a certaines manières d'utiliser des ordinateurs quantiques qui ont des tailles volumétriquement, physiquement importantes. Alors soit avec des lasers qu'on envoie dans tous les sens, soit avec du vide du moins 273 degrés, etc. Verlon nous dit là-dessus, il y a encore une vidéo intéressante de Underscore avec un physicien de la boîte Alice et Bob qui construisent un ordinateur quantique. Ils expliquent un peu comment ça fonctionne. Oui, il y a plein de manières. En fait, en plus aujourd'hui, pour fabriquer un ordinateur quantique, il y a plusieurs approches qui sont explorées. Et si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 approches qui sont explorées. Alice et Bob, c'est une des approches qui sont explorées, mais il y a d'autres manières, a priori, de faire ça. Et donc, ces ordinateurs de recherche, ils sont basés non pas sur des bits, 8 bits égale 1 octet, etc. Ils sont basés sur des qubits. Il y a, sans rentrer dans le fonctionnement, sur le comment ça marche, ce qui n'est pas le but de cette explication, sans rentrer dans le fonctionnement, les qubits, c'est l'équivalent du bit de l'ordinateur qu'on a aujourd'hui, mais il peut être 0 ou 1, ou 0 et 1 en même temps. On va dire, c'est un petit peu comme ça qu'il faudrait le dire. Et aujourd'hui, on nous parle d'ordinateurs quantiques qui ont n qubits. Attention, quand on vous parle du nombre de qubits que va avoir un ordinateur quantique, aujourd'hui, il y a deux types de qubits, en quelque sorte, les qubits physiques et les qubits logiques. Et pourquoi est-ce que je fais ça? C'est que, puisqu'on utilise des propriétés de quantiques de la matière, on est dans des situations où on va mesurer des éléments, et cette mesure des éléments, elle est sujet à du bruit, à des erreurs d'interprétation, à des arrondis. Et on va être capable d'utiliser plusieurs qubits physiques, donc les trucs qu'on va mesurer, pour avoir un qubit qui a une valeur bien précise. On va le dire comme ça. Donc, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est exploitable. Les ordinateurs quantiques, ça n'est pas quelque chose qui existe aujourd'hui, qui est exploité aujourd'hui. C'est une réflexion qu'on a, notamment avec les algorithmes post-quantiques, pour une potentielle avancée technologique qui peut très bien ne jamais arriver. Beaucoup de gens estiment aujourd'hui que ça ne devrait pas arriver avant au moins 10 à 15 ans. Voilà, pas au moins avant 10 à 15 ans que ce soit un truc exploitable. Néanmoins, on a quand même théorisé le fonctionnement de ces ordinateurs quantiques. Et on a développé des systèmes, des simulateurs pour voir comment on programmerait sur un ordinateur qui a des qubits et pas des bits. Encore une fois, sans rentrer dans le détail, c'est pas le but du truc. Et notamment, on va rencontrer pour le chiffrement, pour la partie chiffrement, notamment pour le fait de casser des chiffrements, on va rencontrer deux chercheurs qui ont chacun développé des algorithmes différents qui pourrait être exploité pour prendre un chiffrement qu'on a aujourd'hui et le casser. Ces deux algorithmes, c'est l'algorithme de Grover et l'algorithme de Shor. Les deux sont sur des catégories un petit peu différentes. L'algorithme de Grover, par exemple, il a été inventé pour effectuer des recherches, pour faire du brute force en quelque sorte. Et quand on va faire du brute force à l'aide de l'algorithme de Grover, on va avoir un temps de recherche qui va être énormément diminué par rapport à ce qu'on peut faire sur un ordinateur standard. Et typiquement, avec l'algorithme de Grover, le temps de recherche correspond à la racine carrée de ce qu'on aurait avec un ordinateur classique. Ça veut dire quoi? Grosso modo, ça veut dire quoi? Imaginons la situation suivante. J'ai un message, j'ai un ordinateur quantique, j'ai l'algorithme de Grover, et j'ai un message qui a été chiffré avec de l'AES 128. Comme ce message a été chiffré avec de l'AES 128, je me dis, je vais tenter de le casser, et pour ça, je vais faire une attaque en force brute. Ça veut dire que je vais tester toutes les combinaisons. Donc ça veut dire qu'il faut que je teste 2 puissance 128 combinaisons pour toutes les tester. Si j'utilise l'algorithme de Grover sur un ordinateur quantique, le nombre de tests à faire, c'est la racine carrée. Donc c'est pas 2 puissance 128, c'est la racine carrée de 2 puissance 128, ce qui correspond en réalité à 2 puissance 64. Donc ça veut dire un petit peu que tenter de casser un chiffrement AES 128 avec l'algorithme de Grover, ça revient à casser un chiffrement AES 64 bits. À savoir que l'AES 64 bits, c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui être à la portée d'un certain nombre d'ordinateurs. Donc voilà, premier problème, il est là. Bon, là, c'est pas très très difficile de trouver des contre-mesures parce que l'AES 256 existe. Et même si je fais la racine carrée de 2 puissance 256, ça me fait 2 puissance 128, ça laisse un nombre de possibilités qui, de toute façon, n'est pas vraiment exploitable. Donc, on a l'algorithme de Grover, mais on peut facilement empêcher l'exploitation de l'algorithme de Grover en augmentant la taille des clés pour renforcer la difficulté de faire une attaque de type force brute. Je fais juste une petite parenthèse par là parce que je voudrais dire bonsoir à l'ami Laurent, Laurent Chélus qui est là. Bah écoute, bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques personnes qui sont là et qui disent des choses intéressantes dans le chat. Je regarde un petit peu vite fait ce qui a été raconté. Voilà, en gros, tu peux faire le nombre de calculs de base au carré. Racine carrée. Donc voilà, donc en fait, l'algorithme de Grover, il est assez intéressant. Mais il y en a un autre qui est plus problématique. En tout cas, dans notre situation, c'est un plus gros problème. C'est l'algorithme de Shor. L'algorithme de Shor, lui, il est fait pour résoudre une équation qui est la suivante. Si je prends deux nombres premiers, P et Q, je les multiplie l'un avec l'autre, ça me donne N. N égale P multiplié par Q. Voilà, c'est une multiplication, hein. N, c'est la multiplication de P multiplié par Q. Quand je connais N, que je ne connais ni P ni Q, je ne sais pas retrouver P et Q aujourd'hui avec les algorithmes qu'on a sur les systèmes. On n'a pas de manière, on n'a pas de méthode, à part de tester, de brute forcer ce truc-là, on n'a pas de méthode qui nous permette de trouver un grand nombre, il est le produit de quels autres nombres premiers. Voilà, c'est un truc qu'on ne sait pas faire. L'algorithme de Shor, il sait faire ça. Non seulement il sait le faire, mais pour ceux qui ont fait un petit peu d'algorithmie, il sait le faire dans un temps polynomial. Ça veut dire rapidement. On a une méthode qui me permet, quand j'ai un grand nombre qui est le produit de deux nombres premiers, ben, trouver les deux nombres premiers, on arrive à le trouver rapidement. Le problème, c'est que ça, c'est typiquement ce sur quoi est basé un algorithme de chiffrement qu'on utilise énormément aujourd'hui, qui est le RSA. Alors le RSA, il évolue, aujourd'hui on utilise de plus en plus les courbes elliptiques, mais le problème des courbes elliptiques est également résolvable par l'algorithme de Shor. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où cette fois l'existence même d'un ordinateur quantique associé à l'algorithme de Shor rendrait obsolète, rendrait inefficace les chiffrements qu'on a aujourd'hui. Donc vraiment gros problème de ce côté-là. Alors je vous dis, l'ordinateur quantique il n'existe pas, hein, mais on se dit potentiellement quelqu'un, le premier qui arriverait avec un ordinateur quantique, No More Secrets, hein, si vous connaissez le film Sneakers ou Les Experts, hein, c'est un petit peu, on se retrouve un petit peu avec ça, c'est film mythique, comment il s'appelle, enfin, si vous connaissez le film Sneakers, vous allez le retrouver, le nom me revient pas en tête tout de suite, hein, mais voilà, un film absolument, absolument mythique. Et bonsoir Rolling Phoenix, bonsoir Victor Amus. Alors, est-ce qu'aujourd'hui il faut s'inquiéter? Robert Redford, merci Laurent, c'est avec Robert Redford ce film-là. Est-ce qu'il faudrait un ordi quantique très avancé pour rendre Shor effectif pour casser RSA? Alors justement, c'est mon point suivant, c'est exactement ça. Je lis ici, voilà, pof. Donc une grande partie de la cryptographie moderne repose sur cette difficulté ou sur un problème équivalent. Là, je vous lis mes notes. Le point d'après, il faut quelques milliers de qubits logiques pour le faire sur une taille de clé réelle. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un ordinateur quantique qui a plusieurs milliers de qubits logiques. Avoir plusieurs milliers de qubits logiques, ça se résume à avoir quelques millions de qubits physiques. Aujourd'hui, j'ai cherché tout à l'heure, les plus gros ordinateurs quantiques que j'ai vus, ils possèdent à peu près 1000 qubits physiques. Donc, c'est pas un problème aujourd'hui. Quelques qubits, 1000 qubits physiques aujourd'hui. Alors, on fait une grosse, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup d'améliorations qui se font que, avec un certain nombre de qubits physiques, on peut faire plus de qubits logiques qu'on en faisait avant. Mais, on est dans une situation où on est à plusieurs ordres de grandeur de la solution. Ça ne veut pas dire qu'on la trouvera pas. Hein. Il peut y avoir des avancées dans la recherche scientifique. Hein. On a des avancées où on progresse. Et de temps en temps, on trouve un truc qui fait faire un saut énorme en avant. Mais pour le moment, on en est loin. Pour le moment, on en est très très loin. Donc voilà. Alors évidemment, il y a le coup de bol, comme dit Mimsou. Il y a le coup de bol. On peut y arriver du premier coup, mais évidemment. Mais c'est pas une méthode qui est reproductible. Donc aujourd'hui, on peut considérer que Shor et Grover sont pas exploitables, mais ils existent. Et j'insiste sur le fait que aujourd'hui, alors il y a quelques autres à ma connaissance, j'ai pas plus creusé ça, mais c'est Shor et Grover qui sont les dangers potentiels le jour où on a un ordinateur quantique. Alors la question qu'on peut se poser derrière, Victor Amus qui pose une question qui est très intéressante. Le qubit, c'est la norme pour le quantique, car il y avait d'autres patterns pour mesurer ou représenter les capacités d'un ordinateur quantique. En réalité, le qubit, par rapport à la structure de l'ordinateur quantique, donc ouais, il y a d'autres propriétés sur les ordinateurs quantiques, et notamment d'autres propriétés qui permettent de voir comment l'exploitation du côté quantique de la matière est utilisée. Mais en termes de puissance de calcul, c'est vraiment via le qubit que tu vas le représenter, puisque le qubit va te donner le nombre, en gros, vraiment c'est très très mal dit parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais le qubit va te permettre, plus tu vas avoir de qubits, plus tu vas pouvoir faire d'opérations simultanées. Donc si tu as 2 qubits, tu vas être limité à 2 opérations simultanées. Si tu as 1000 qubits, logique, tu peux faire 1000 opérations simultanées. Voilà. Donc, il en faudrait plusieurs milliers de logiques pour pouvoir... Alors, j'avais regardé combien de milliers pour un... mais je n'ai pas retenu parce que de toute façon, c'est au-delà de ce qu'on a. Donc, en fait, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse? Aujourd'hui, tu vas voir, j'ai d'autres choses que je vais dire dessus. J'ai vraiment tout un petit sujet dessus là que je suis en train de vous décrire. S'il n'y a pas de problème... Pourquoi est-ce que OpenSSH vient de sortir une version, donc la 10.0p2, qui contient des algorithmes post-quantiques? Parce que, en réalité, il faut voir le problème en prenant un peu de recul. Quand on va chiffrer une donnée, c'est que cette donnée, c'est un secret. Et là, on va se poser une petite question. Un secret, c'est quoi? Un secret, c'est une information qu'on ne veut être connu que des personnes autorisées. Mon numéro de carte bancaire, c'est un secret. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir pris l'exemple de la carte bancaire. Ma carte bancaire, c'est un secret. Si vous connaissez mon numéro de carte bancaire, si vous déchiffrez mon numéro de carte bancaire lors d'une communication, vous pourrez faire des achats en mon nom. Vous pourrez vider mon compte en banque. Il n'y a pas beaucoup d'argent dessus en ce moment, vous allez être limité, mais bon, vous pourrez toujours le faire. Sauf que, comme le disent certains ici, la carte bancaire, elle a une durée de vie. Donc ça veut dire que le secret associé à mon numéro de carte bancaire, il est également associé à la durée de vie de ce secret, de cette information. L'information, elle a une durée de vie. Donc le mot de passe d'une application, un numéro de carte bancaire, une session SSH de mise à jour d'un serveur, la clé privée d'un certificat, tous ces éléments, ça a des durées de vie qui sont relativement limitées, qui auront peu d'intérêt dans 15 ans. Dans 15 ans que quelqu'un ait enregistré tout mon trafic réseau pour le déchiffrer dans 15 ans avec un ordinateur quantique et trouver mon numéro de carte bancaire, ben il va être bien avancé parce qu'il pourra un petit peu rien faire. Mais tous les secrets n'ont pas des durées de vie relativement courtes, parce que ça, c'est ce que j'appelle des secrets de durée relativement courte. Pensez par exemple à des informations militaires. Pensez par exemple au plan de construction d'une base militaire, aux procédures à mettre en œuvre dans le monde militaire dans le cas de la dissuasion nucléaire, les caractéristiques d'un radar qui fait que telle armée a un avantage sur telle autre armée. Donc déjà, d'un point de vue militaire, ça a des durées de vie qui sont importantes. Alors il y a plein qui vont me dire, mais bon, moi je bosse pas dans le militaire, alors bon. On va revenir là-dessus, parce que vous allez voir que le « alors bon », pas forcément. Il y a également des informations médicales, et je pense notamment aux informations qui sont liées à la recherche sur les génomes. C'est des informations qui sont très importantes, qui ont une durée de vie plus importante que votre vie, puisque typiquement, l'analyse d'un génome peut donner des informations sur des risques de la descendance de la personne dont on a mesuré le génome. Ça va également être capable de donner des informations sur les couples. Est-ce que c'est vraiment le fils de machin, etc. Le génome a un impact au-delà de votre personne. Et comme le dit Manon, le génome concerne vos enfants, vos ascendants, vos frères et vos sœurs. Donc là, il y a quelque chose qui peut déjà commencer à se dire, oula, attention, tout ce qui va concerner l'ADN, il y a un vrai risque derrière d'exploitation problématique. Bon, y penser. Il faut y penser à ça. Et puis, toujours pareil, hein, on est dans des temps où les personnes un petit peu différentes sont potentiellement ciblé, bah, tout ce qui va permettre d'identifier une personne un petit peu différente de par ses différences, on va dire, hein, que ce soit des différences facilement détectables ou pas, bah, ça va également poser problème. J'ai mis également dans ma liste, hein, des informations industrielles critiques. Il y a plein de technologies qui repose sur un secret de fabrication pendant une certaine durée. Donc toutes ces choses-là, on peut se dire, ouais, ces choses-là, potentiellement, elles peuvent être, je dirais, mises à mal avec un ordinateur quantique dans 10 ou 15 ans. Voilà. Ça troll un peu dans le chat. Donc, bah, pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Quel est le problème ? Alors aujourd'hui, il y a des gens qui s'amusent. Alors des gens, il faut des moyens. Hein. Il y a des gens qui s'amusent à enregistrer le maximum de trafic Internet qu'ils peuvent voir passer. Donc ils l'enregistrent sur des disques durs. Ça fait des terras et des terras et des terras de données, mais ils les enregistrent. L'idée étant de se dire, on va utiliser une approche qui est le Store Now, Decrypt Later, le SNDL. Le SNDL, c'est quoi ? Le SNDL, c'est que si le secret a une grande durée de vie, il faut qu'il puisse résister longtemps. Et donc, potentiellement, un ordinateur quantique, si jamais on arrive à en créer un jour, ce qui n'arrivera peut-être jamais. Les algorithmes post-quantiques d'aujourd'hui, ils doivent empêcher qu'une personne qui a des données chiffrées, qu'il aimerait déchiffrer, ait un avantage en exploitant l'algorithme de Shor. et un avantage en exploitant l'algorithme de Grover. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on réfléchisse pour une utilisation d'algorithme de chiffrement qui ne serait pas vulnérable à l'algorithme de Shor ou à l'algorithme de Grover. Mais attention, aujourd'hui, on en connaît peut-être quelques deux ou trois autres, hein, mais attention aujourd'hui, on sait faire des algorithmes qui résistent à l'approche qui a été développée par Shor ou par l'approche de Grover, mais il y a peut-être d'autres approches qu'on ne connaît pas encore. Aujourd'hui, les algorithmes post-quantiques, les algorithmes de chiffrement post-quantique, j'y viens, on va en parler dans quelques minutes, ces algorithmes de chiffrement-là, ils sont pensés pour résister à l'algorithme de Shor, à l'algorithme de Grover. Ils ne sont pas pensés pour résister à un éventuel algorithme super Shor qui pourrait arriver un jour. C'est pas un truc foolproof, c'est pas un truc qui va empêcher n'importe quel ordinateur quantique de déchiffrer des données, c'est des algorithmes qui vont empêcher, si on a un ordinateur quantique, d'exploiter des algorithmes pour ordinateur quantique qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça ces fameux algorithmes post-quantiques. Alors, ok, vous allez voir qu'il y a deux twists là-dessus. Il faut également que ces algorithmes-là résistent à un ordinateur classique. Parce que je peux tout à fait faire un algorithme qui est totalement résistant à Shor ou à Grover, mais que je peux résoudre avec mon ordinateur à côté. Il faut que ça résiste à la fois à l'ordinateur quantique et à la fois à l'ordinateur standard. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Ça, c'est la problématique telle qu'elle est posée. Alors, j'ai vraiment pris le temps de présenter la problématique, qu'on se pose les bonnes questions, et regardons un petit peu comment est-ce qu'on cherche à le résoudre. Pour le résoudre, donc, il y a de la recherche qui est faite pour trouver des nouveaux algorithmes. Ces nouveaux algorithmes, c'est bien que tout le monde utilise les mêmes algorithmes, pour plein de raisons. Déjà, la première raison, c'est que ça permet une certaine interopérabilité. La deuxième raison, c'est que si ce sont des algorithmes qui sont beaucoup utilisés, ils sont beaucoup analysés, ils sont beaucoup mis à l'épreuve, et donc ils sont relativement robustes. Surtout que là, il s'agit d'algorithmes qui sont récents. On n'a pas 30 ans d'expérience en chiffrement pour savoir assez rapidement repérer des failles qui sont dedans. C'est une science relativement nouvelle. Et pour ça, il y a le NIST aux États-Unis. Donc le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology aux États-Unis, qui est un organisme qui définit notamment les normes à utiliser aux États-Unis pour que les États aient des procédures et des manières de discuter entre eux et également pour qu'ils aient des manières de discuter avec l'État fédéral. Évidemment, en toute sécurité, parce que là, c'est l'État pour l'État. Donc là, en gros, le NIST, il définit ce qu'on doit utiliser à l'intérieur des États-Unis pour que les autres puissent pas nous espionner. Évidemment, j'ai un peu tordu le truc, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Et donc le NIST, il a normalisé pas mal d'algorithmes jusqu'à présent, ce qui est super intéressant, parce que c'est ce qui nous a permis d'avoir des algorithmes de chiffrement aujourd'hui qui sont relativement robustes. Petite remarque de Rocky Racer qui dit on pourrait simplement double chiffrer, non, un pour les ordinateurs standards et un pour Shor. Tu vas voir que c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est littéralement ce qu'on fait. Mais c'est pas juste pour chiffrer, hein, puisque il y a le chiffrement qui existe, il y a l'échange de clés, il y a les condensats, il y a tout ça qui existe dans le post-quantique. Alors si j'en reviens au NIST, il y a une dizaine d'années, il y a un petit peu moins d'une dizaine d'années, parce que si je dis pas de bêtises, donc c'est en 2016, et si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de mes lectures, c'est en décembre 2016, le NIST a lancé un concours. Alors, c'est pas quelque chose de surprenant, le NIST, il lance régulièrement des concours où il y a différentes personnes qui vont présenter des algorithmes pour résoudre le concours avec les prérequis du concours. Par exemple, je me souviens très bien quand le NIST avait lancé un concours pour avoir un algorithme de condensat peu consommateur d'énergie pour que ça puisse être utilisé sur les téléphones ou sur des machines qui ont relativement peu d'énergie et qui serait une alternative à SHA-2. Et ils sont arrivés avec une variante de Ketchak qui s'est appelée SHA-3. SHA-3 n'est pas un successeur de SHA-2, c'est une alternative qui n'utilise pas les mêmes problèmes mathématiques. Voilà, typiquement c'est ça. Donc il lance régulièrement des concours pour ça. Et donc en 2016, il lance un concours pour les algorithmes post-quantiques. Alors je me marre parce que post-quantique, dans mes notes, j'ai simplifié ça par PQ. Donc 2016, l'algorithme, le concours est lancé. Entre 2017 et 2022, il y a eu plein de gens, plein de chercheurs essentiellement, qui ont fait différentes propositions d'algorithmes. Il y en a qui ont été éliminés, il y en a qui ont été cassés, il y en a qui ont été revus, qui ont été améliorés. Vraiment, il y a eu pas mal d'effervescence autour de ça, là, pendant 5 ans. En juillet 2022, le NIST a présenté les algorithmes qu'il a sélectionnés. Donc, ils ont des critères. Hein. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne suis pas allé jusque-là. Mais typiquement, ils ont retenu 4 algorithmes qui ne sont pas forcément des algorithmes concurrents, puisque ça peut être des algorithmes qui résolvent des problématiques différentes. Puisqu'il y a, comme je disais, il y a l'échange de clés, il y a le chiffrement asymétrique et le condensat. Et donc là-dedans, il y a quoi? Il y a Kyber qui a été choisi, il y a Dilithium, il y a Falcon et il y a Sphinx Plus. Voilà, 4 qui sont là. Donc depuis juillet 2022, on sait que ces 4 algorithmes-là vont devenir des normes. Alors, mais pour que ça devienne des normes, on prend l'algorithme et il y a tout un ensemble d'opérations à faire, ce qui va durer assez longtemps, pour en créer une norme. Notamment pour le généraliser, pour chercher à améliorer la consommation en termes d'énergie. Parce que je vous rappelle que si votre téléphone, pour faire une vérification, il vide la moitié de sa batterie, c'est pas du tout exploitable. Pour voir la portabilité, pour voir si les processeurs, si on peut exploiter les accélérations par les processeurs, etc. Toutes ces problématiques-là, pour généraliser le truc, pour, voilà. Et donc, entre 2023 et 2024, il y a eu des normes qui ont été associées. Et là, on est, nous, dans la dernière étape, entre 2025 et 2026, où on commence à voir l'implémentation de ces normes-là dans les différents produits. Et donc là, en l'occurrence, celui que je donnais comme exemple, dans OpenSSH 10.0 P2. Donc là, on est dans cette étape-là. Mais il faut bien comprendre que c'est très, très, très difficile de garantir ça. Mais à un moment donné, il faut y aller et les gens vont chercher à casser ces algorithmes-là. Il n'y a que comme ça qu'on saura s'ils sont robustes ou pas. Et ces algorithmes, ils sont récents, et donc il y a sans doute plein d'améliorations qu'on pourra leur donner. Mais les améliorations, elles vont venir avec le temps, avec les relectures, avec les études, avec toutes ces choses-là. Et on peut prendre un exemple d'un algorithme qui était un des favoris début 2022 et qui s'appelle SIDH. Il était extrêmement prometteur pour effectuer des opérations d'échange de clés. Si vous avez déjà entendu parler de Diffie-Hellman, c'est un peu l'équivalent de Diffie-Hellman. C'est-à-dire qu'on a deux correspondants qui sont authentifiés, c'est-à-dire on sait qui ils sont, on sait que c'est pas quelqu'un qui se fait passer par quelqu'un pour l'un d'entre eux, et on va échanger des informations qui permettent de négocier une clé qui n'est connue que d'eux-mêmes. Si on regarde les informations qui sont échangées, ce n'est pas suffisant pour trouver la clé. Les maths qui sont derrière ça étaient particulièrement élégantes, les clés était petite, bref, il avait beaucoup d'avantages. Alors, évidemment, vu que je parle au passé, vous voyez arriver la douille. En juillet 2022, il y a deux chercheurs, Castric et Decru, qui vont montrer comment casser SIDH de façon tout à fait classique en utilisant la géométrie algébrique. C'est-à-dire que SIDH, potentiellement, c'était un algorithme d'échange de clés qui, avec les algorithmes de Shor ou de Grover, aurait mis des millénaires à être cassé. Mais là, l'ordinateur qui est à côté de moi, qui donc n'utilise pas du tout les mêmes approches que l'ordinateur quantique, il y arrive en quelques minutes ou en quelques heures. Et c'est ça un petit peu ce que je disais tout à l'heure, et c'était la remarque qu'il y avait dans le chat. On définit des algorithmes qui doivent être à la fois résistants pour ces futurs ordinateurs, pour les algorithmes de ces futurs ordinateurs quantiques, potentiels, encore une fois, il n'y en aura peut-être jamais des ordinateurs quantiques, on ne sait pas aujourd'hui. Mais il faut qu'ils résistent aussi à ce qu'on sait faire aujourd'hui. Vu que c'est pas parce qu'un calcul est difficile à réaliser par un ordinateur classique qui sera difficile à réaliser par un ordinateur quantique, c'est pas parce qu'un calcul réalisé par un ordinateur quantique sera difficile à réaliser qu'il sera difficile à réaliser par un ordinateur classique, et c'est pas parce qu'il est facile à réaliser d'un côté qu'il est pas facile à réaliser de l'autre côté. Donc en fait, ça augmente la difficulté. Donc il faut être bon en quantique, en Shor, en Grover et en classique. C'est quand même pas simple. Alors, comme je disais, FreeBSD vient de sortir OpenSSH 10.0 P2, qui donc, lui, utilise une approche qui est hybride. Alors, Nick Serve, tu poses une question dans le chat, ça va répondre à ta question. L'approche hybride, c'est quoi? Une partie, on va avoir une clé, et une partie de la clé est calculée de façon post-quantique, et une partie de la clé est calculée de façon classique. Et typiquement, un grand classique qui est utilisé, c'est d'utiliser, on fait beaucoup de classiques et d'utiliser dans ma phrase, deux algorithmes qui sont aujourd'hui exploités pour avoir à la fois un chiffrement robuste avec un ordinateur classique et à la fois un chiffrement robuste avec un ordinateur post-quantique, c'est d'utiliser la problématique des courbes elliptiques, et notamment la courbe elliptique 25519, donc X25519, qui, on le sait, est aujourd'hui quelque chose qui est compliqué à faire pour un ordinateur classique. Et qui est typiquement le genre de choses qui pourrait être cassée par un ordinateur quantique. Ce qu'on va faire, c'est que on va associer à X25519 Kyber, l'algorithme Kyber, par exemple, qui lui est post-quantique. Alors, quand on dit on va les associer, ça veut dire que ces deux algorithmes-là, indépendamment, ils vont générer leurs secrets, et les deux secrets qui sont générés, on va ensuite les mélanger. On va les mélanger avec des outils de fonction de dérivation de clés, par exemple, ou ce genre de choses. Ce qui va nous donner une clé qui, elle, est utilisable. S'il manque un de ces deux-là, si j'ai le Kyber, mais j'ai pas le X25519, je peux pas trouver la clé qui est utilisable. Si j'ai le X25519 mais que j'ai pas le Kyber, je peux pas trouver la clé utilisable. Donc, il faut vraiment que les deux soient cassés pour y arriver. Voilà. Donc, il faut un alignement des planètes, ça veut, qui soit particulièrement élégant. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. Hein. Dans cet exemple-là, si un ordinateur quantique existe, il faut casser le post-quantique. C'est-à-dire qu'il faut casser les deux. Voilà. Dans cette situation, il faut casser les deux types d'algorithmes. Dans l'exemple, si SIDH était passé, on n'avait pas vu qu'il pouvait être exploité par un ordinateur classique, il aurait fallu casser SIDH. Et en plus, il aurait fallu casser X25519, puisque SIDH n'est pas cassable en post-quantique. Donc, enfin, avec un ordinateur quantique, avec l'algorithme de Shor ou l'algorithme de Grover. Donc là, au final, en utilisant ces deux-là, ça nous permet d'avoir cette approche hybride qui nous protège quand même plutôt pas mal. Alors, il y a des exemples. Par exemple, dans TLS 1.3, on rencontre par exemple X25519-MLKEM768. Voilà. X25519, je vois. Le MLKEM768, c'est un algorithme post-quantique. Voilà. Je connais pas spécialement, mais voilà, il est post-quantique. Mais maintenant, il n'y a pas que dans TLS. Donc TLS, vous savez, c'est HTTPS, hein. On peut utiliser cela. On n'est pas obligé parce que HTTPS, dedans, on va pouvoir définir ce qu'on appelle la Cypher Suite, qui est justement quels algorithmes de chiffrement on utilise. Et bien, on peut utiliser une combinaison de chiffrement classique et de chiffrement post-quantique. S'il y en a parmi vous qui utilisent Signal, depuis fin 2023, je crois que c'est depuis décembre 2023 également, depuis fin 2023, Signal utilise PQXDH, donc PQX, qui est un algorithme post-quantique. C'est le renommé un algorithme dont on a parlé avant, et DH qui est Diffie-Hellman. Typiquement, sur les iPhones, e-message d'Apple, depuis début 2024, ils utilisent un truc qu'ils appellent PQ3, mais ça c'est leur branding commercial, mais en gros c'est des courbes elliptiques avec du Kyber. Donc aujourd'hui ça commence à être mis en place, aujourd'hui ça commence à être utilisé, et l'idée, c'est que tout le monde se mette à utiliser ces algorithmes-là. Donc, il faut se mettre à les utiliser. C'est une bonne pratique. Et c'est surtout que là, on va revenir sur « Ouais, mais moi, je m'en balèque parce que je suis pas concerné. Moi, mon numéro de carte bancaire, dans 25 ans, on s'en fout. » Argon 2, H, c'est overkill. C'est très bien, Argon 2. C'est très, très bien, Argon 2. Il y a pour d'autres raisons. Mais c'est très bien, Argon 2. Une question qu'il y avait dans le chat. Pourquoi je suis concerné aussi? Parce que, et ça c'est un grand classique dans le chiffrement, c'est des problématiques qu'on avait dans le chiffrement il y a déjà, quand on a commencé à avoir la libération du chiffrement, fin des années 90, début des années 2000. C'est pas 96, 98 la libération du chiffrement? Je sais plus exactement. Il me semble que c'est à peu près à cette époque-là. De mémoire, c'était le gouvernement Jospin en France qui l'avait autorisé. Et avant, on était très très limité en termes de taille de clé. La libération du chiffrement a été faite à cette époque-là. Puis, il y a des réflexions qu'on a commencé à avoir à cette époque-là, qu'on doit toujours avoir aujourd'hui. Et notamment que on ne doit pas uniquement chiffrer les informations qui sont confidentielles. Et pourquoi on ne doit pas uniquement chiffrer les informations qui sont confidentielles? Mais parce que c'est un signal très fort qu'on envoie sur quelqu'un qui va surveiller, enregistrer les données, le fait que on se mette à chiffrer les données pour envoyer un message et que 95% des autres messages ne sont pas chiffrés. Là, on envoie, c'est un signal faible, hein, dans lequel on va dire, attention, le message que je viens d'envoyer, c'est un message important. C'est un message que j'ai chiffré parce qu'il est confidentiel. Il est plus important que les autres que j'ai l'habitude de ne pas chiffrer. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de ne pas utiliser ces outils-là. Pour nous, ici, là, on ne parle pas du chiffrement post-quantique. Ne pas utiliser les outils post-quantiques uniquement quand on a des secrets qui ont une durée de vie importante. Surtout pas, parce que ça serait un signal faible très important pour indiquer qu'on manipule un secret qui a une grande valeur sur le long terme. L'idée, c'est de passer tranquillement à ces algorithmes-là, à ces algorithmes de chiffrement post-quantique, pendant que les ordinateurs quantiques ne sont qu'une menace potentielle, pour que, quand ils sont une réalité, la quantité de données qui est à déchiffrer va contenir beaucoup de données peu importantes au moment où on arrive à les déchiffrer et quelques données importantes. En fait, on va noyer les données de grande valeur dans plein d'autres données. C'est ça l'idée. En même temps, ça augmente le coût de la surveillance de masse, donc c'est également un truc positif. Et voilà. Mais vraiment, on va vous dire, le chiffrement post-quantique aujourd'hui, si on y passe, c'est parce qu'aujourd'hui, on se dit, il faut protéger un certain nombre de secrets sur le long terme. Et pour protéger ces secrets sur le long terme, on a trouvé des algorithmes qui sont suffisamment robustes. Et bien, on va les exploiter, on va les utiliser avec les algorithmes qu'on utilise aujourd'hui. Donc, bien comprendre que, pour conclure cette partie sur le post-quantique, pour conclure ce petit dossier, qu'est-ce que c'est que ces algorithmes post-quantiques? Dans le chat, il y a des personnes qui disaient au début « Ah, mais j'ai rien compris à ça, je vois pas à quoi ça correspond, etc. » J'espère que c'est plus clair. Vraiment, le dire, c'est potentiellement protéger des secrets importants dans le futur. Ça ne servira peut-être à rien, mais ma boule de cristal n'a plus de batterie, donc je peux pas vous dire si ça nous servira ou pas. Plus sérieusement, on ne peut pas savoir à l'avance si ça servira ou pas. Vu qu'il y a un danger qui est là, on cherche à se protéger contre ce danger précis. Il y a Gonzo Corp qui précise, premier assouplissement du chiffrement en 1996 et ensuite loi Jospin en 1999 pour la libération du chiffrement. Ouais. Je disais fin 90, début 2000, puis 96. Voilà pourquoi j'avais une dissonance dans ma tête avec ces deux dates-là, et ben voilà, tu donnes la raison pour laquelle, donc merci de la précision, Gonzo Corp. Alors les personnes pour qui c'était pas clair là dans le chat, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus compréhensible. Je pense qu'il y avait Hardware Adage, je crois, qui avait posé la question. Je suis désolé, j'ai pas lu absolument tous les messages, j'étais concentré sur mes notes et pour pas dire d'ânerie, donc j'ai pas vu tous les messages qui sont passés. Acquillusion, oui, super, merci. Un secret doit être secret tant que l'information est considérée comme sensible. Ouais, j'en parle un petit peu. Oui, je vois mieux à quoi ça correspond, merci. Tous nos systèmes de base sont dépassés. Je te remercie, Gonzo Corp. Merci beaucoup. Donc, voilà pour le petit dossier que je voulais faire sur le post-quantique. Je trouvais ça vraiment intéressant de revenir dessus pour qu'on puisse faire une synthèse. Et puis, on va en parler de plus en plus. Et si on en parle de plus en plus, vous aurez plus d'informations là-dessus. Voilà. Au moins, vous saurez pourquoi, à quoi ça correspond. Quelle est la problématique derrière ça? Alors, je dis pas que j'ai pas dit d'ânerie. J'ai peut-être dit quelques âneries dans le truc. Mais je pense que globalement, c'est vraiment ça. Et je suis pas rentré dans la partie technique, hein. Je n'ai pas prévu de vous expliquer comment fonctionne la physique quantique, parce que la physique quantique, de toute façon, personne n'y comprend rien. Et je crois que ça, c'est les mots. Alors ça, c'est Alexandre Astier qui avait fait un sketch là-dessus. Mais Feynman, qui est un scientifique, un physicien, qui notamment a fait beaucoup de choses au niveau de la physique quantique, lui-même le disait que si vous pensez que vous avez compris la physique quantique, c'est que vous n'avez pas compris. Ça tombe bien de parler de ça. Il y a deux jours, c'était le 250e anniversaire de Sophie Germain. Mon OSIM, ça me pose plus de questions que ça ne donne de réponses. Mais bon, je serai jamais cryptographe. Alors, c'est des questions peut-être techniques qui te posent. Parce que l'idée de ce que j'ai voulu présenter, c'est pas de dire le comment on fait du chiffrement post-quantique. Parce que très clairement, je n'ai pas le niveau. Déjà, du chiffrement tout court, même si à un moment donné, j'avais le niveau, aujourd'hui, je l'ai plus du tout. Quoi. J'ai plus du tout le niveau. Donc ouais, j'ai essayé de me concentrer sur l'approche, sur le problème, sur le pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse aujourd'hui. Ça manque de détails spécifiques sur l'intrication quantique quand même. Ouais, alors à ce propos, on va essayer de faire une expérience. Non, je déconne. Verlan qui nous dit, si vous n'avez rien compris à la physique quantique, c'est que vous êtes sur la bonne route. C'est ça, c'est un petit peu ça. Petite remarque intéressante, très très bonne remarque de la part de Virginie. C'est vrai que j'ai parlé plusieurs fois de condensat. Condensat, c'est le mot français pour effectivement fonction de hachage. Les H, c'est du condensat. Voilà, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire condensat, donc je pense pas toujours à vous faire le parallèle. Les H, c'est les condensats. C'est juste la traduction. Qu'est-ce qu'il avait dit Victor Mus ? Dans cette étape, on parle de concept, mais il n'y a pas de machine opérationnelle, mais c'est pour bientôt. Pas sûr que ça existe un jour. Alors, les ordinateurs quantiques aujourd'hui, on a des prototypes qui sont tout petits en termes de puissance de calcul et qui nécessitent des kilowatts pour fonctionner et qui sont pas très stables et qui fonctionnent que pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Voilà. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on arrive à jouer avec cette idée-là, mais cette idée-là, elle n'est pas ni industrialisable, ni capable de monter à l'échelle avec les connaissances actuelles. C'est ça le problème. Et on ne sait pas si les problèmes qu'on a aujourd'hui et qui empêchent justement d'utiliser les ordinateurs quantiques à grande échelle, on ne sait pas si ces problèmes-là, ils peuvent être résolus. Aujourd'hui, c'est des problèmes, on ne sait pas. Peut-être qu'il existe des solutions, mais peut-être qu'en réalité, il n'y en a pas et que les problèmes qu'on rencontre, eh ben, on est à la limite de ce qui est faisable et qu'on n'aura jamais un ordinateur quantique avec 3 ou 4 000 qubits logiques. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Mais peut-être qu'on arrivera, on ne sait pas. Voilà. Mais par rapport à l'utilisation incroyablement présente partout, cette utilisation, elle est totalement partout du chiffrement, ben on se dit, ça serait peut-être bien que si jamais un jour on y arrive, on ait une porte de sortie pour pas se retrouver complètement coincé. Ce que j'aimerais approfondir, c'est la capacité du quantique à renforcer les algos de l'IA sur la base des probabilités. Est-ce que c'est lié? Est-ce que l'IA et le quantique vont s'auto-améliorer? Je ne sais pas. Mais la puissance nécessaire pour un ordinateur quantique aujourd'hui, pour faire de l'IA, pour aller là-dessus, ça va être compliqué aussi. Voilà, c'est ça. Ça troll un petit peu dans le chat. Alors, Dieu ne joue pas au dé, mais en plus, il ne regarde pas le résultat. Donc oui, voilà. Voilà pour les algorithmes post-quantiques. Je vais passer au sujet suivant, je pense que je vais pas trop mal dans mon timing. J'essaie de faire des revues de presse qui durent un peu moins d'une heure parce que c'est long quand même, hein, une heure. J'avais vu que Philips nous dit, OVH génère des certificats SSL de manière quantique. J'ai plus l'article en tête. Alors c'est pas quantique, c'est post-quantique. Voilà. Et ce sont d'autres hybrides également. On va complètement changer de sujet, j'ai une mauvaise nouvelle pour certains, là vraiment très 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 mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous connaissiez quelqu'un qui était très présent dans le monde du libre, je ne le connaissais pas personnellement, j'ai juste lu certains de ses articles, mais Gérard Delafont, il y a un article sur Linux.fr, le grand Gérard Delafont est allé rejoindre les étoiles, il est décédé il y a quelques jours. Il a contribué à la traduction de KDE, de Medintux, etc. Alors les obsèques étaient prévues hier au Père Lachaise, et j'ai vu tout à l'heure en vérifiant, parce que ma revue de presse, je la prévois quand même un petit peu à l'avance, que c'était reporté au 10 avril au Père Lachaise. Voilà. Donc je vais vous mettre le lien vers l'article de Linux FR, parce que c'est encore une fois un grand monsieur de la communauté française francophone autour de l'open source qui disparaît. Donc voilà. Je sais pas parmi vous s'il y en a qui le connaissaient, Gérard Delafont. Et voilà. Je vais continuer avec un changement complet de sujet. Bonsoir Rêvé. Bonsoir. Et de la Bible Linux. Voilà. Complètement autre chose, parlons un petit peu de PHP. Mais on va parler du côté technique de PHP. Oui, paix à son âme, pas paix à son ami. Bon, paix à ses amis aussi, hein, mais paix à son âme. Repose en paix, mon cher ami. Si on parle de PHP, PHP, historiquement, a eu, comment est-ce que je pourrais dire, plein de soucis au niveau de ses licences. Depuis très longtemps, le code source de PHP est régi par un système complexe où il y a deux licences personnalisées. Il y a la PHP licence version 3.0.1 pour la majorité du code et la Zend Engine License version 2 pour le moteur d'exécution dans le dossier Zend. Alors moi, depuis que j'entends parler de PHP, j'entends parler des problèmes autour de la licence. C'est-à-dire que c'est des licences qui sont casse-pieds. Quelles que soient les raisons, il y a eu plein de raisons à l'époque quand c'est arrivé par rapport aux entreprises qui ont pris un moteur existant, qui l'ont adapté, enfin, qui l'ont fait fonctionner avec PHP, qui ont décidé de le distribuer avec, etc. Ouais, c'est casse-pied, notamment, il y avait des droits d'image sur le PHP Group, sur la société Zend. Et ces clauses particulières, ces licences particulières liées à PHP et au moteur d'accélération qu'il y a derrière qui s'appelle Zend, faisaient que l'utilisation de PHP n'était pas compatible avec la licence GPL. Ce qui créait des casse-têtes juridiques pas possibles avec, par exemple, des distributions comme Debian ou avec des projets open source qui voulaient embarquer dans leur projet du code PHP. C'était un vrai cauchemar. Ça fait longtemps qu'on le sait, on vit avec, mais bon, ça serait bien de trouver une solution. Alors, il y a eu une request for comment. Donc, attention, c'est pas fait. Ça a été présenté et proposé par les gens qui gèrent PHP. Je ne sais plus si c'est une fondation ou quoi. Je ne l'ai pas mis. Voilà, c'est en faisant le truc que je vois que les trucs qui me manquent. Mais l'idée, donc, il y a une RFC qui est d'abandonner ces vieilles licences pour adopter une licence qui est un grand standard dans l'industrie, qui est le BSD 3 Clause. La BSD 3 Clause, c'est une licence extrêmement permissive, qui serait là à partir de PHP version 9. Donc ça simplifierait le travail des juristes là-dessus. Mais pour ça, c'est très compliqué. Très compliqué de changer la licence d'un produit, parce qu'il va falloir l'accord, parce qu'il faut l'accord des propriétaires intellectuels de ces produits-là. Et c'est effectivement une fondation, donc la fondation PHP, pour le moment, elle a bien obtenu l'accord de toutes les parties historiques, et notamment le PHP Group et Perforce Software, qui aujourd'hui détient Zend. Donc ces deux-là sont d'accord, et il y a une possibilité de changer la licence. Gros avantage de cette licence BSD 3 Clause, alors tous ceux qui font du BSD la connaissent bien, cette licence-là, hein, mais que déjà, d'une part, c'est une vraie licence libre. Et quand je dis une vraie licence libre, ça veut dire qu'elle est certifiée par l'Open Source Initiative, qui nous dit si une licence elle est réellement libre ou si elle n'est pas libre pour telle ou telle raison. Donc là, premièrement, c'est une vraie licence libre. PHP deviendrait un logiciel libre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ensuite, elle est 100% compatible avec la GPL. Ça va simplifier la vie où on va pouvoir envoyer un projet qui contient du GPL et qui utilise du PHP. On peut l'intégrer dedans, il n'y aura plus de problème, puisque quand on intègre un produit avec un logiciel, avec du code GPL, pas avec un logiciel, avec du code GPL, qu'on introduit quelque chose dans du code GPL, c'est-à-dire que l'ensemble doit être sous licence GPL. Donc il faut que les deux licences le permettent. Et puis, c'est complètement dans l'esprit du bon côté de l'esprit open source, hein. Le côté open source reste intact. Les droits d'utilisation, de modification, de distributeur pour les développeurs et les utilisateurs ne changent pas. On ne met pas de restrictions là-dessus. Donc, c'est plutôt positif. Ouais, c'est un gros changement. PHP, il est là quand même depuis 30 ans à peu près. Ouais, c'est ça, s'il y en a qui peuvent vérifier. C'est une trentaine d'années qu'il est là, PHP. PHP a eu depuis 30 ans des problèmes au niveau de la compréhension de la licence, de la distribution, de ce qu'il y a derrière, qui était pas toujours appliqué, c'est-à-dire que les gens ne se faisaient pas attaquer en justice et compagnie par PHP, mais on sait pas l'avenir de quoi il est fait, on sait pas si un jour quelqu'un rachète la société, le propriétaire du code, il va pas se mettre à faire n'importe quoi avec, enfin voilà, on sait pas. Là, ça clarifie les choses, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Le projet PHP va pouvoir continuer de se moderniser juridiquement, en plus que du côté technique. Voilà. 8 juin 1995. Voilà, ça fait 30 ans, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et vu le prix de licence, vaut mieux acheter du GPL. Alors là, moi je dis bravo à Virgile. Et vu le prix de licence, vaut mieux prendre du GPL. Bravo. Bravo. Joe qui dit super live, ravi de vous avoir découvert, bonne soirée, bon live. Mais écoute, merci beaucoup. Je live en général le dimanche soir, le vendredi soir à 21h. Voilà, donc n'hésite pas à revenir. C'est combien une licence PHP? C'est pas payant, mais c'était pour le prix de l'essence, le prix de licence. Vu le prix de licence, vaut mieux prendre du GPL. C'était ça la blague. Je l'ai peut-être mal faite. Gabi, si tu m'envoies un message direct pour discuter de ça. On va parler de React. Pareil, on est dans la partie licence. On va parler de React. On va parler d'un truc qui s'appelle Hodoku. Alors, Hodoku, j'ai vu le truc. Je l'ai mis. Je dois vous avouer que ça faisait 4 heures que je faisais ma revue de presse. Je n'ai pas regardé en détail. J'étais limité dans le temps. Donc, je n'ai pas creusé le truc. Mais ça a l'air vachement intéressant. Et là, de quoi on va parler? Prendre le début, ça coûte moins cher. Vous êtes en forme ce soir. Je pense que vous avez déjà entendu parler d'un framework web qui s'appelle React. Le framework web qui s'appelle React, il a été créé par Meta. J'ai mis dans mes notes entre parenthèses Facebook. Et puis, il tourne sur énormément de plateformes aujourd'hui. C'est vraiment une des plateformes, des frameworks les plus utilisés aujourd'hui. Ce qui amène un problème. React est fait par Meta. Meta, grand apôtre de la liberté, de l'open source, de la protection de la vie personnelle et compagnie, comme on le sait tous, évidemment. React étant un framework qui est utilisé par quasiment tout le monde, il y a surtout dans le contexte actuel, on pensera à quelques exemples, un danger qui apparaît quand un projet aussi important que ça, qui est géré par une entreprise, et cette entreprise est propriétaire du code, de la licence, du projet. Ce projet a beau être dans une licence libre, rien n'empêche le propriétaire de cette licence de la changer du jour au lendemain, d'y appliquer des restrictions, de supprimer des fonctionnalités petit à petit. On peut penser, par exemple, à des projets comme Terraform, à des projets comme Minio, qui sont des projets qui étaient gérés par une entreprise, enfin qui sont gérés par une entreprise. Terraform a changé de licence avec une licence qui n'est plus open source et qui est ambiguë quant à ce qu'on peut faire avec, puisque en gros, dans la licence de Terraform, on dit vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire concurrence à HashiCorp qui est dite Terraform. Mais faire concurrence, ça veut dire quoi? Si jamais moi j'ai un service, je me sers de Terraform, j'ai un service, je n'en fais pas concurrence, puis eux ils démarrent un nouveau service et on devient concurrent, est-ce qu'il faut que j'arrête de l'utiliser? Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas du tout exploitable sur le long terme. Minio, ça a été la même chose. Minio, c'est un projet qui a été distribué énormément à énormément d'endroits. Petit à petit, la boîte qui est derrière Minio, ils se sont dit, on va enlever les fonctionnalités les plus intéressantes de Minio, maintenant, faut passer sur le produit payant. Et à partir du moment où il était distribué partout, on leur dit, maintenant, faut payer. Donc, pour éviter que ça se passe, que la même chose se passe avec React, Meta a officiellement transféré le projet React, React Native inclus, à la Linux Foundation. Et ça, ça donne naissance à la React Foundation. Alors, ça s'est pas passé au mois de mars, ça s'est passé fin février, le 24 février. J'étais passé à côté, mais je trouve que c'est intéressant d'en parler là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois, Meta ne peut pas refermer le projet. Ne peut pas faire la même chose que ce qu'on fait typiquement Terraform ou Minio, ce qu'on fait HashiCorp et Minio. C'est juste deux exemples, hein. Mais on peut en trouver d'autres, hein. C'est juste les deux premiers exemples qui me sont venus en tête quand j'ai préparé, quand j'ai lu la news. Je me suis dit, ah ouais, on peut mettre ça en parallèle. Donc, passer le projet à la Linux Foundation. La Linux Foundation, petit rappel pour ceux qui connaissent pas la Linux Foundation. La Linux Foundation, c'est une fondation qui vit de la part de donations, de la part de gros acteurs, par exemple Amazon, Microsoft, Google, sont des gens qui payent plusieurs centaines de milliers de dollars tous les ans à la Linux Foundation pour pouvoir Huawei, OVH. OVH fait partie des gros partenaires de la Linux Foundation. Et l'idée, c'est d'avoir une manière de gérer un certain nombre de projets. Bon, à la base, c'était le projet Linux, mais ça c'est un petit peu allé au-delà. De façon à ce que le projet soit réellement pérenne et appartienne, non pas à une entité qui pourrait se l'accaparer, mais que ça reste bien commun, ça fait partie des communs. Ah. Et là-dessus, ça permet d'avoir des fonds, ça permet de pouvoir héberger le projet, ça permet d'avoir une infrastructure, enfin ça permet d'avoir un soutien logistique, légal, etc. Donc c'est vraiment, tout le monde en est bénéficiaire. Et donc du coup la nouvelle entité, la React Foundation, elle est soutenue par exemple là aujourd'hui Amazon, Vercel, Microsoft et Huawei dans les notes que j'ai pu trouver. Donc plutôt intéressant. Ils payent quelques centaines de milliers de dollars mais génèrent des milliards. Il y a quand même un problème d'échelle, non? Mais oui, mais c'est mieux que rien. Enfin, pour moi c'est oui, on peut se dire ils génèrent des milliards, mais ils contribuent quand même massivement à ces projets-là parce que non seulement ils financent directement en dollars la fondation, mais ça c'est le financement direct. Il y a également des financements indirects. Tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc, hein. On est bien d'accord. Il se passe quoi s'ils arrêtent de financer? Ça fait, vu que c'est très large le nombre de personnes qui participent, s'il y en a un qui arrête de financer, c'est compensé par les autres. Et en termes d'image de marque, c'est pas terrible. On avait parlé le mois dernier de Google qui avait donc renouvelé son platinium auprès de la Linux Foundation et avec le niveau de platinium qu'ils avaient pris, ça leur permettait d'avoir un siège au board de la Linux Foundation. Voilà. Et l'idée c'est ça, c'est que ça leur permettait d'avoir une place auprès de la Linux Foundation et donc de, dans le board, pouvoir donner leur avis, pouvoir faire des propositions. Ils sont évidemment pas tout seuls. C'est un parmi d'autres. Mais en gros, ça permet d'avoir une possibilité d'influencer les choix stratégiques de développement, par exemple, pour certains projets. Dans une démarche similaire, et ça c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qui se fait souvent à ma connaissance, le Kudu Ecosystem Foundation a été lancé lors du Mobile World Congress pour développer une pile open source de réseaux d'accès radio optimisée pour l'IA, soutenue par Ericsson, Nokia et AMD. Et ça c'est un truc qui est hyper important. Alors, Yuri qui nous dit, sinon ça fork logiquement. Oui, sinon ça peut forker, mais ça veut dire que les ressources qui sont actuellement présentes pour développer le produit et la connaissance du produit sont pas là. Il faut les reconstruire. Ça nécessite beaucoup de travail. Alors, typiquement pour React, ça signifie que la feuille de route technique, elle sera pas dictée par les besoins internes de Meta, mais par l'ensemble de la communauté web et que tout le monde aura son mot à dire là-dessus. Pour Okudu, ça c'est vraiment intéressant parce que, je vous dis, à ma connaissance, ça n'existe pas, mais ça pose les bases d'une infrastructure 5G ou 6G qui soit standardisée et qui va casser le monopole aujourd'hui des équipementiers télécoms habituels. Aujourd'hui, les équipementiers télécoms pour la téléphonie mobile, ils mettent en place des solutions qui sont totalement verrouillées et ça ne laisse pas la place pour un nouvel acteur, un nouvel entrant dedans de façon crédible. Ici, de faire une pile, une couche qui soit gérée par une fondation et qui ne soit pas propriétaire d'un équipementier en particulier, c'est quelque chose de totalement nouveau. Voilà, un petit peu le Okudu, c'est Okudu, O-C-U-D-U, ça se dit. Hop, attends, je regarde un petit truc. Ah, je l'ai perdu. Je te retrouve le lien. Okudu, okudu.org. Alors c'est un problème, je ne sais pas où ça ira, hein, mais il y a quand même des gros qui sont derrière, hein, puisque on compte quand même Ericsson, Nokia et AMD. On va dire deux gros équipementiers télécom un petit peu en phase descendante. Un petit peu quand même, parce que Ericsson, Nokia, ils ont quand même une vraie présence aujourd'hui. Mais ils sont moins présents qu'ils étaient à l'époque. Et puis, le dernier point que je voulais aborder au sujet des licences, puis après on va faire une sorte de fourre-tout dans lequel il y aura d'autres petites choses. J'ai pas posté le Okudu sur YouTube. Voilà. C'est, on en a déjà parlé, mais quand on parle des licences et je veux revenir dessus et je veux insister, c'est un sujet sur lequel j'insisterai régulièrement. L'Open Source Initiative a mis en place une vraie définition de ce qu'on va appeler une licence open source pour l'IA. Parce que aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler que bah là, il y a Gemma 4 qui est sorti. C'est un modèle d'IA open source. Il n'a d'open source que le nom. Ça n'est pas open source. Où est le code source ? On est d'accord. Où est le code source ? Quand on parle d'une licence open source dans les modèles d'IA, on parle en réalité en général une licence open weight. Je réponds après Gonzo Corp, juste après, je répondrai à ça. Ça va être une licence open weight, c'est-à-dire que le résultat, en gros c'est le binaire, hein, on nous le donne, on peut en faire ce qu'on veut. Mais les scripts d'entraînement, la méthodologie d'entraînement, le pré-training, le post-training, tout ça, on le connaît pas. Le dataset, les jeux de données qui ont été utilisés pour créer cette IA, on ne les connaît pas non plus. Donc aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui font un peu du open source bashing en disant « Ouais, mais nous, on fait de l'open source. » Un méta, hein. « Ouais, nous, on fait de l'open source. On a sorti l'AMA 4. » Alors bon, déjà, vous n'avez pas le droit de l'utiliser en commercial. On vous dit pas comment on l'a créé et on vous dit pas à partir de quelles données. Mais quand même, on est quand même vachement gentil. Voilà, il y en a un petit peu marre de ça, ce qui fait que on a maintenant la possibilité de dire non, tu n'as pas le droit de t'appeler open source si jamais tu ne respectes pas ces points-là. Voilà. Et donc ça, c'est merci à l'Open Source Initiative. Ils ont défini ces fameuses propriétés. Alors, ils n'ont pas défini la licence, ils ont défini ce qu'il est nécessaire d'avoir pour être une licence open source dans le monde de l'IA. Je vous poste le lien vers le site de l'OSI, de l'Open Source Initiative. Allez, on arrive vraiment sur la fin de cette revue d'actualité. J'ai quelques petits points que j'avais prévu d'aborder. News Divers, j'aurais pu mettre un S à Divers, ça aurait été bien. News Divers. J'avais prévu d'en parler, mais j'ai pas eu le temps de les rédiger, puis ça fait déjà quand même une grosse partie sur la revue d'actualité. Dans les news que j'ai pu voir, qui auraient valu le coup d'être un petit peu traitées, il y a littéralement depuis quelques jours une explosion du prix des Raspberry Pi, à cause de la crise de la RAM. Hein. On va parler dans un instant des conséquences du prix de la RAM. On va en parler dans un instant parce que c'est vraiment là dans ces autres points les news diverses, c'est au niveau de la RAM. Puisque aujourd'hui les Raspberry Pi ont encore monté en termes de coûts, c'est pas vraiment la faute de la Raspberry Pi Foundation, mais est-ce que les SBC vont pas un petit peu arrêter d'être des machines extrêmement utilisées par le grand public, par les makers, etc. Aujourd'hui, voilà, on est passé de 74 à presque 120 euros pour un Raspberry Pi. Alors ça doit être un 120 euros, c'est quoi? C'est un 4 mégas, un truc comme ça. Mais je suis allé voir les prix là récemment. Mais c'est une catastrophe. Hein. Je suis allé voir sur Kubi par exemple. Mais c'est juste parce que je voulais en trouver un Raspberry Pi modèle 5. Le Raspberry Pi 4Go, il a 130 euros. Voilà. Le 4Go, 130 euros. 70 euros pour le 2Go. C'est devenu hors de prix. Est-ce qu'ils vont continuer à vivre? Je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment devenu une catastrophe. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un petit ordinateur plus complet pour moins cher. Voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce que les SBC vont continuer? J'en sais rien. Et on peut quand même se féliciter pour la Raspberry Pi Foundation qui pourrait prendre un énorme coût financier. Mais heureusement, leur partie semi-conducteur a littéralement explosé en termes de chiffre d'affaires. Voilà. Donc, il y a ça qui compense pour eux. Et d'ailleurs, ils ont annoncé qu'un Raspberry Pi 6 serait en préparation. Mais je pense qu'ils vont attendre que ça se calme un peu au niveau des prix pour mieux définir ce qu'ils vont mettre dedans. Également deux boîtes qui en souffrent, Pine 64, qui ont arrêté un certain nombre de leurs produits parce que ça devenait trop cher. Framework aussi, qui est obligé d'augmenter ses prix sur des solutions où ils n'avaient pas prévu de les augmenter, qui souffrent du prix de la RAM, pour ne citer que. Alors justement, parlons un petit peu du prix de la RAM parce qu'il y a eu quelques nouvelles de ce côté-là, du qu'est-ce qui s'est passé. Et vous allez voir que... Avec ça, punaise, le prix, le Raspberry Pi 4B 8Go est passé en une semaine de 128 à 191 euros. Valve qui galère pour sortir sa machine. Non, mais tout le monde en souffre. Mais de quoi ça vient? Fin d'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, la Crucial a annoncé que Micron a annoncé que Crucial, je ne sais jamais dans quel sens ça va, arrêtait sa gamme grand public pour se concentrer sur la gamme professionnelle parce que il y avait une demande en termes d'IA pour les data centers et notamment en RAM HBM, qui était gigantesque et qui a eu comme conséquence de se dire, il va falloir fournir ces personnes-là. Voilà, Micron annonce que Crucial s'arrête. Après deux heures de là, je ne sais plus si c'est Crucial qui annonce que Micron s'arrête ou Micron qui annonce que Crucial s'arrête. Vous avez compris le truc. Voilà. On en a parlé un petit peu l'an dernier. C'était un peu un sujet assez chaud. Et bien, il s'avère que en fait, contrairement à ce qui a été annoncé par plein de monde, il n'y a pas eu d'achat massif en avance de la part d'OpenAI, puisque c'est eux qui ont démarré le truc, d'OpenAI pour de la RAM. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que OpenAI, fin d'année dernière, a envoyé une lettre d'intention, ça s'appelle une letter of intention, une LOI, à ses fabricants, à ses fournisseurs, pour dire, on estime avoir besoin de tant de RAM pour les 24 prochains mois. Et en fait, ils font ça parce que ils savent pas exactement combien ils en auront besoin, mais ils peuvent pas non plus ne pas prévenir leurs fournisseurs. Donc, en gros, ils disent, adaptez vos productions parce que je pense qu'on aura besoin de cette quantité-là. Et là, les constructeurs, qui ont été les fournisseurs d'OpenAI, se sont dit, donc, on va bloquer pour pouvoir les fournir eux, et on ne pourra pas fournir les autres. Ce qui a fait que ils ont refusé d'autres clients qui sont allés voir les concurrents des fournisseurs d'OpenAI qui se retrouvent à nouveau dans la même situation. Enfin, vous voyez l'effet cascade. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Le problème, c'est que fabriquer de la RAM, ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Donc c'est pas de la spéculation, c'est juste de l'anticipation de besoins. Ils ont annoncé qu'ils auraient besoin de tant de RAM, et aujourd'hui ils disent, cette quantité de RAM, c'est pas sur les 24 prochains mois qu'on aura besoin, mais c'est peut-être, je suis pas au cœur du truc, donc je ne connais pas les secrets, mais c'est peut-être sur 36 ou 48 mois. La même quantité. Donc au final, la pénurie de RAM, c'était une pénurie supposée, qui va pas être aussi importante que prévu. Ce qui fait que, et alors, c'est, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas voir ce qui va se passer demain, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que pour la DDR, il va y avoir plus de possibilités d'en fabriquer, et donc, la DDR ne devrait pas trop exploser, continuer d'exploser, ça devrait se stabiliser, et peut-être petit à petit, le prix commencer à descendre. Mais ça ne va pas faire une chute, hein, ça, il y a très très peu de chances. Par contre, pour les mémoires de type HBM, donc les mémoires de très très haut débit qui sont utilisées dans les GPU, là, la demande, elle est toujours là. Hein. Elle n'est peut-être pas aussi importante que ce qu'on attendait, mais elle est toujours là. Et vu qu'elle était tellement importante qu'on annonçait qu'il allait falloir des années entières pour l'assouvir, bah, il en fera peut-être un petit peu moins, mais la demande, elle est toujours là. Dans mes recherches, je voyais la DDR avait une demande fantôme. Et donc du coup ça permettrait d'amener une certaine stabilisation et une baisse progressive de la demande de RAM en DDR4, DDR5 et compagnie. Donc voilà, c'est un peu une bonne nouvelle quelque part, mais ça ne va pas changer la face des choses. La RAM va rester chère pendant un certain temps. Maintenant, pour nous, elle devrait peut-être se calmer au niveau de son envolée. Voilà, c'est ça, comme ça qu'on le voit. Voilà. Alors comme d'habitude, je vais faire une petite conclusion pour les gens qui sont au niveau du podcast, qui écouteront ça une fois que j'aurai fait le montage et que je l'aurai posté. Mais vous ne sauvez pas, je reste là, il y a quelques questions auxquelles je souhaite répondre. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ce nouvel épisode du Eurasian Tech News vous a plu, pour ceux qui écoutent ça en podcast, à savoir que c'est enregistré en live, une fois par mois. Il faut surveiller sur mon site web rougi.net dans la partie live l'emploi du temps pour savoir quand est-ce que je vais faire ça. C'est variable en fonction de mon activité. Nous ici, on va continuer à papoter un petit peu sur le live sur Twitch et sur YouTube. En attendant, pour les personnes qui étaient là en podcast, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce podcast, d'avoir écouté ça peut-être en x2 ou x3 si des fois je suis un petit peu long. Et puis, moi, je vais vous dire au mois prochain. Bye bye.